France Culture.
Et c'est reparti pour les midis. À partir de 13h, je discuterai avec Antoine Vauteur s'il publie son nouveau roman, Le tragique et lancinant Haute Folie. Mais tout de suite, place à Marie Sorbier pour le point culture du jour. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Le musée national Adrien Duboucher de Limoges, qui revendique d'ailleurs la plus grande collection de porcelaine du monde, a subi un cambriolage début septembre. Trois pièces, toutes trésors nationaux, ont été dérobées. Le préjudice a été évalué à 6,5 millions d'euros. Ce vol fait suite à une série de cambriolage en Europe, ciblant des céramiques chinoises. Le maire de Limoges a déclaré qu'il n'y avait pas eu de défaillance de sécurité et que, je cite, « ce sont vraisemblablement des collectionneurs qui donnent des ordres pour dérober ces pièces en s'adressant à la très haute criminalité ». Le marché de la céramique chinoise, c'est le dossier du Point Culture du jour. Jean Gaucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en art asiatique. Alors après le casse du 3 septembre au musée Adrien Duboucher à Limoges, qui fait suite d'ailleurs à plusieurs vols de céramique dans les musées européens ces dernières années, que pouvez-vous nous dire du choix des cambrioleurs? Je voulais commencer par là, parce qu'ils ont pris peu de pièces, ils ont volé peu de pièces, mais ça avait l'air d'être un choix très précis.
Alors oui, en effet, ils ont donc dérobé trois pièces, comme vous le savez. Parmi ces trois pièces, la plus importante, c'est donc un plat bleu-blanc de l'époque Yuan, avec un décor dit Baizi, c'est-à-dire c'est un animal fantastique entre le tigre et le dragon. Donc c'est un plat qui est d'époque Yuan, 14e. En effet, on a quelques exemples sur le marché, dont un qui s'était vendu une première fois en 2007 à 300 000 livres et qui a été revendu ensuite en 2022 à 1 million de livres. Celui du musée est encore plus beau, les couleurs étaient beaucoup plus vives. Et évidemment, oui, c'est sûr que si on avait dû l'estimer, ce serait plusieurs millions d'euros. Donc ça se comprend assez facilement.
Qu'est-ce qu'il nous raconte, en fait, ce cambriolage du marché actuel de la céramique chinoise ?
Bah, évidemment, ça, je pense que ça montre un engouement pour la porcelaine chinoise. Je pense que c'est peut-être une problématique aussi de sécurité dans ce musée précisément, dans certains musées nationaux en France, qui fait que le marché évoluant et la valeur des pièces évoluant, vous l'avez vu là, pour le plat Yuan de 300 000 livres en 2007 à 2022 pour 1 million, la sécurité n'a pas évolué, elle, en même temps que la valeur des œuvres qui sont conservées dans les musées.
Est-ce que la médiatisation d'un vol comme celui de Limoges modifie le marché ?
Non, je pense pas. Je pense que la médiatisation est bonne pour essayer de retrouver les pièces, tout simplement, pour faire connaître leur disparition. Et au cas où, nous, professionnels de l'art, si on vient à croiser ces pièces à un moment ou à un autre, que ce soit en Chine, en photo, quelque part, on sait jamais, mais tout le monde est au courant et on est tous un peu plus ou moins à leur recherche. Mais non, je ne pense pas que ça fait évoluer le marché.
Vous avez parlé d'un engouement pour ces pièces de céramique chinoise. Est-ce que vous arrivez à le dater, cet engouement? D'où il vient? Et surtout, qui est le public, en fait? Qui achète, je sors du cambriolage, dans le marché régulier, qui achète ces pièces-là?
Oui, alors, c'est un marché qui existe depuis les années 80-90, mais qui était à l'époque réservé aux initiés, entre guillemets. Il y avait quelques rares acheteurs en France qui retrouvaient les pièces et les renvoyaient en Chine où ils avaient là-bas quelques clients, mais c'était un marché très très limité. Et puis, avec le boom économique en Chine, on va dire des années 2000 jusqu'aux années 2020, où le PIB a augmenté, où tout était vraiment en explosion, ça a évidemment eu un impact sur le marché de l'art. Et c'est là où des intermédiaires sont arrivés en France, des intermédiaires qui, eux, se sont mis à chercher les pièces pour des collectionneurs. Et ça a vraiment développé les prix. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé dans cette vingtaine d'années.
Et ce sont des collectionneurs européens ?
Alors pour la plupart, c'est des collectionneurs chinois qui sont fortunés et qui ont leur propre collection, voire même leur propre musée, qui exposent leurs pièces, et c'est eux qui achètent normalement en dernière main. Après, on a aussi des professionnels de haut vol qui eux-mêmes ont leur propre collection et achètent, et qui sont aussi sur les rangs, des acheteurs finaux, entre guillemets. Et ceux-ci peuvent être évidemment chinois, comme ils peuvent être thaïlandais peut-être, anglais évidemment, américains, quelques Français, c'est plus rare. Donc en fait, le marché français n'est jamais qu'un un élément d'un marché international qui est plus important.
Une dernière question peut-être pour finir cet entretien, Jean Gaucher. Est-ce qu'il y a des pièces très rares? Quelles sont les pièces les plus recherchées? Vous parliez de ce plateau qui a été volé à Limoges comme étant une pièce rare. Est-ce que ce sont ce type de pièces-là qu'on cherche principalement? De quelle période, par exemple, la céramique chinoise est recherchée?
Alors, oui, ce type de pièces, donc d'époque Yuan pour ce plat, sont très recherchées. Elles sont extrêmement rares. Je pense que les plus recherchées, alors dans le marché global, en effet, ce sont les porcelaines qui sont le plus recherchées. Et dans le marché des porcelaines, je pense que les premières pièces les plus valorisées et qui sont le plus demandées vont être les pièces impériales, notamment de la dynastie Qing et d'époque 18e. Donc, les règnes de l'empereur Yongcheng et Qianlong, c'est vraiment un peu le sommet de l'esthétisme, d'un mélange quasiment avec un goût européen aussi. C'est des pièces qui ont été produites en petite quantité, vraiment destinées à l'empereur, et c'est celles-ci qui sont le plus recherchées. On a vendu notamment en juin dernier, avec la maison de vente Canenchère, un vase dragon marqué Qianlong qu'on a vendu pour un peu plus de 2 millions d'euros. Et si on remonte en 2019, on avait vendu aussi avec la maison Milon à Paris un bol dit Falangzai, c'est-à-dire couleur européenne, pour le traduire directement, qui avait fait un peu plus de 3 millions d'euros. Donc c'est quand même des sommes d'argent assez importantes pour des objets d'art. Et c'est ces pièces-là qui sont les plus recherchées.
Alors, quand on parle de cette bascule dont vous venez de parler, de prix, on comprend bien que ce sont des objets dont la valeur est exponentielle. J'imagine que les faux aussi sont sur le marché. Vous êtes un expert. Est-ce que vous avez l'impression que quand on a un marché comme ça qui augmente et qui grandit, votre métier est d'autant plus important pour repérer justement le vrai du faux ?
Oui, tout à fait. Ça fait un peu partie de l'évolution du marché aussi, notamment en France, qu'on a vu ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des pépites qui passaient en vente et qui étaient même souvent inaperçues et qui allaient faire des petits prix par rapport à leur véritable valeur. Ensuite, on a commencé à comprendre. Et maintenant, les commissaires-priseurs qui, eux, se sont organisés et surfent un peu la vague, entre guillemets, du marché de l'art asiatique, font appel à des cabinets d'expertise comme le nôtre pour les assister à non seulement déceler les faux des vrais, aussi comprendre la valeur des objets pour, quand on est confronté à un objet important, eh bien, vraiment le convoiter pour pouvoir le passer en vente et le remettre sur le marché. Donc tout ça, c'est un peu structuré, tout à fait. Et vous mentionniez les faux, en effet, c'est un peu le fléau de ce marché de l'art chinois. Donc on a vraiment besoin de développer une connaissance pointue pour arriver à faire la différence et essayer de mettre sur le marché des pièces authentiques pour garder un marché sain.
Bien, merci beaucoup Jean Gaucher.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, la cérémonie des Emmy Awards s'est déroulée cette nuit à Los Angeles.
Pour cette 77e édition, les Emmy Awards, l'équivalent des Oscars à la télévision, ont récompensé la série The Pitt, qui a reçu le prix de la meilleure série dramatique, devançant Severance, pourtant la grande favorite de la soirée. La série The Studio a remporté quant à elle 13 trophées dans la catégorie comédie, un record. Produite par Apple TV, elle raconte les coulisses d'Hollywood et de l'industrie cinématographique américaine. La mini-série britannique Adolescence a reçu elle aussi de nombreux prix. Et enfin, l'émission du présentateur Stephen Colbert, fervent critique de Donald Trump, a été désignée meilleur talk show de l'année, alors que la chaîne CBS a annoncé son arrêt la saison prochaine.
Et pour finir, Marie, on a appris ce week-end la disparition du jazzman brésilien Hermeto Pascoal.
Grand compositeur et multi-instrumentiste, Hermeto Pascoal est mort à l'âge de 89 ans. Sa musique, considérée comme unique en son genre, empruntée au jazz-rock, au free jazz, mais aussi aux musiques populaires brésiliennes, adorant les expérimentations, Hermeto Pascoal a très tôt inséré à ses compositions des sons de la nature, comme le souffle du vent, le bruit de la pluie ou encore d'une rivière. Dans sa chanson Musica des Lagoas, par exemple, des musiciens jouent de la flûte alors qu'ils sont immergés dans l'eau. Une autre de ses expérimentations avait consisté à écrire pendant un an une musique par jour, une manière d'offrir à chaque personne une composition pour son anniversaire. Reconnaissable à sa longue barbe blanche et à ses lunettes de soleil, son dernier concert en France avait eu lieu le 7 août dernier sur la scène du festival Jazz in Marciac.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.